tout le monde, Emmanuel avec vous pour la prochaine heure. J'espère que vous allez bien. Moi, je ris déjà en ce début d'émission et je vais super bien. Et cette semaine, on parle des notions de succès et d'échec, réussir et échouer. Et c'est tellement vaste comme principe, à commencer par réussir sa vie. Je pense que personne n'arrive sur Terre en se disant « moi, je vais scraper ma vie ». Personne veut délibérément scraper sa vie. T'sais, qui fait une omelette le matin en se disant « moi, je vais faire l'omelette la moins réussie de la planète. Moi, je vais tout faire pour que ça goûte pas bon, que personne l'aime, incluant moi-même. Je vais faire une omelette pas d'œuf, avec de la sauce soya, des raisins, puis je vais ajouter un peu de vinaigre, puis je vais même m'inscrire à un concours de la meilleure omelette pour être sûr de perdre. » Non. Ou du moins, très rarement. Et si on a ce genre d'envie ou de but-là, clairement et paradoxalement, on peut dire qu'on veut réussir à faire la pire omelette pas mangeable du monde. On s'en sort pas. On va réussir notre échec et échouer devient une victoire. C'est quand même intéressant, non? On agit pour réussir ce qu'on entreprend. Réussir même dans nos rôles, hein? Réussir à être un bon père, une bonne mère, réussir à être un bon professeur, un bon humain. Est-ce que j'ai déjà parlé de notre obsession à être de bons humains et de bonnes personnes? Je pense que j'en ai parlé plusieurs fois déjà. On veut tous réussir notre vie, mais réussir notre vie, ça veut dire quoi? Parce que réussir, c'est tellement large. Il y a tellement de choses, de domaines dans lesquels on peut réussir. Réussir un objectif, réussir socialement, financièrement, amoureusement, professionnellement, réussir à réaliser un rêve. Et réussir, ça semble être le but de pourquoi on entame ces projets-là, hein, qu'on a les rêves qu'on a. C'est pour éventuellement et idéalement les atteindre. Mais ça implique aussi qu'il y a autant de possibilités, de domaines, de chances, d'opportunités d'échouer également. Une opportunité d'échouer. Ça fait drôle à dire et pourtant porter l'échec. Est-ce que ça existe vraiment ou, comme l'erreur, c'est une expérience et ça n'existe pas l'échec? Et donc, ça devient une opportunité d'apprentissage. Et si c'est le cas, s'il n'existe pas l'échec, est-ce que le succès peut exister sans l'échec? C'est quoi notre relation avec le succès, notre relation avec l'échec? Le nôtre, mais aussi celui des autres, hein, nos proches et ceux qu'on ne connaît pas, qu'on regarde de loin. Comment on accueille leurs succès et leurs échecs? Est-ce que le succès des uns veut nécessairement dire l'échec des autres ou tout le monde peut réussir en même temps sans entraver l'accomplissement des autres? Et on parle souvent d'avoir peur de l'échec, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la peur de réussir? On parle des idées de succès et d'échec aujourd'hui avec notre invitée qui a elle-même eu envie de tout abandonner et pour qui le sentiment d'échec a précédé le grand succès qu'elle a connu dans la très populaire télésérie District 31, la comédienne Charlotte Legault. Bienvenue à Emmanuel avec un M et deux L.
Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole. shove the oven in a bag with the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So
veut, à quelque part, réussir. La question, c'est réussir quoi? Comment? Et la question qu'on se pose moins souvent, c'est réussir pour qui? Parce que des fois, malheureusement, on mène nos vies à poursuivre un objectif et réussir quelque chose qui n'est même pas pour nous. Et ça me fait penser à David Bernard, qui est venu nous parler de lâcher prise à l'émission déjà et qui nous parlait de cette phase de vie où il était boxeur olympique, champion québécois 3 années consécutives, il a gagné l'or. Et pour ceux qui ont manqué l'émission, je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter sur le canalem.vusezvoix.com. Donc David nous parle de ses réussites de boxeur, 3 ans champion olympique, c'est une belle victoire quand même. T'as une position claire sur un podium, t'as un trophée qui vient avec, qui est un objet tangible de réussite, c'est concret. Et si on cherche un point de référence pour mesurer notre succès, il me semble qu'un trophée, ça pourrait être un bon indice. Et pourtant, David, il a compris beaucoup plus tard que non seulement il lui manquait plusieurs pans de vie où il ne se sentait pas nécessairement accompli et donc qu'il lui manquait quelque chose pour considérer qu'il réussissait sa vie, mais en plus, il s'est rendu compte que ce qu'il faisait là dans le monde sportif, il ne le faisait même pas pour lui. Il faisait ça pour rendre son père fier. Et je salue David en passant pour nous avoir partagé cette tranche de vie avec transparence et authenticité. Et je trouve qu'il est un exemple parfait de ce qu'on a tous fait à un moment ou à un autre, c'est-à-dire faire quelque chose dans lequel on réussit bien, mais qui ne nous ressemble peut-être pas totalement, ou du moins qui ne nous comble pas, nous, personnellement, dans ce qu'on considère comme important de réussir. Mais c'est tellement flou réussir, c'est tellement flou. Réussir, c'est tellement relatif et pourtant on base nos vies sur le succès. T'sais, réussir notre vie, grand but avec peu de points de référence. Mais disons qu'on essaie d'avoir un point de référence. Est-ce que la réussite, elle est mesurable? Est-ce que la réussite, elle est toujours mesurable? Parce que dans nos sociétés modernes, on mesure la réussite plus souvent qu'autrement en termes de productivité, en termes de résultats. On mesure la réussite de quelqu'un en termes d'utilité. Et je trouve que c'est dommage et dommageable parce qu'au-delà du résultat, il y a l'expérience qui nous y mène. Et on a bien vu, comme dans l'histoire de David, qui est notre histoire à tous finalement, c'est que c'est loin d'être toujours garant de succès réel que de pouvoir tenir un trophée concret dans nos mains, que de pouvoir mesurer notre succès. Le processus lui-même compte souvent beaucoup plus que le résultat final. Et ça, on l'oublie. Que ce soit le succès en amour ou le succès dans notre carrière ou le succès social, on oublie le processus, la qualité, au-delà de la quantité, de la mesure, du résultat. Si on regarde sur le plan amoureux, par exemple, il y a une relation qui dure 10 ans avec des joies, des grandes réalisations. Si ça se termine, est-ce que c'est vraiment un échec? Est-ce qu'on peut dire que 10 ans d'évolution, de partage, d'échange avec quelqu'un, c'est pas un succès parce que ça se termine? Bien, ça dépend où on met les yeux. Si on regarde jamais le processus, on passe à côté de chaque petite chose, chaque jour qui a été magnifique et qui a été un succès pour les partenaires dans cette histoire d'amour-là. Et que de regarder si la relation a durer pour toujours, comme référence pour dire qu'elle a réussi, c'est très, très, très réducteur, à mon sens, du moins. Mais je pense qu'au-delà du processus qu'on peut regarder comme un succès en soi, comme chaque étape, comme chaque moment, la seule mesure de la réussite, c'est le sentiment de réussite. Je répète. La seule mesure de la réussite, c'est le sentiment de réussite. Et c'est fou à quel point, quand on essaie de ramener des concepts dans le concret, ça finit toujours par être un ressenti. Comme quoi, il n'y a rien de plus réel que l'expérience qu'on fait d'un événement et non l'événement en soi. Et ça, j'en parle souvent de ça. Il n'y a pas de réussite si on ne ressent pas la victoire à l'intérieur, indépendamment des résultats. Et il y a un échec quand on ne se sent pas accompli à l'intérieur, indépendamment des trophées accumulés. Si on reprend l'exemple de la relation amoureuse de 10 ans, un des deux partenaires peut voir le processus et être très fier et sentir qu'il a réussi quelque chose de vraiment beau. Et l'autre partenaire, pendant ce temps-là, si son plus grand but de vie, c'était de passer sa vie avec la même personne, il peut ressentir l'échec, malgré le processus qui était beau, on va se le dire, et réussi. Et l'échec. L'échec. Surtout la peur de l'échec. Hein. Et cette peur-là, elle peut s'expliquer par plusieurs choses. T'sais, avoir peur d'échouer, ça peut être avoir peur de ne pas accéder à ce qui nous tient le plus à cœur. Donc, ça sonne grosse déception, difficile à surmonter. C'est un deuil, une peine profonde qui peut émerger de ça. Mais c'est aussi la peur que les gens qu'on aime ne soient pas fiers de nous. C'est la peur que notre ego, hein, que notre fierté soit bafouée un peu au passage, au final. Et il y a tout un aspect émotif, social et l'aspect de notre image qui peut être touché dans l'idée d'échouer un projet qu'on entreprend, d'échouer une relation. Et quand on a peur d'échouer, qu'on ne tolère pas l'échec en soi, qu'est-ce que le succès des autres a comme impact sur nous? Comment on fait face au miroir des grandes réussites que les autres nous démontrent? Parce que sincèrement, on va se l'avouer, des fois, voir les autres briller, quand nous, on a l'impression de rien réussir, ça peut faire mal. Et là, on a plusieurs choix qui s'offrent devant nous, hein. Pester contre eux, devenir un obstacle aussi à leur propre succès, ou les prendre comme inspiration et se motiver en les regardant faire, en voyant ce qu'ils font pour réussir, en les prenant comme mentors et appliquer dans nos vies ce qu'on observe. En commençant, j'ai dit que personne venait sur Terre pour délibérément scraper sa vie. Et j'ajouterais ici, du moins, pas consciemment. Disons-le comme ça. Parce que oui, quand je dis « personne vient au monde en se disant « moi, je vais scraper ma vie », c'est une chose. Mais avec les aléas de la vie et selon le respect et l'amour qu'on s'octroie, qu'on se donne personnellement, même si on ne vient pas avec le gène d'échouer nos vies, c'est possible d'abandonner en cours de route et de penser qu'on ne mérite pas ce succès-là. Pour toutes sortes de raisons. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus sécuritaire. Ça devient une habitude et même une croyance qu'échouer, c'est tout ce qu'on fait de bon. Non seulement on peut se mettre à échouer sa vie, et là, la définition d'échouer sa vie reste très vague et il y a autant de définitions qu'il y a d'humains sur Terre, mais non seulement on peut se mettre à échouer à répétition tout ce qu'on entreprend et trouver ça normal, voire pas considérer pouvoir faire autrement. Et là, ça me fait penser à un schéma du très populaire psychoanalyste Jung et que j'adore et qui parle du sentiment d'être défectueux. C'est être un échec en soi. C'est extrêmement profond. Et on se surprend pas que ça se reflète partout où on passe à ce moment-là quand on a l'impression d'être un échec. Mais on peut se mettre aussi à avoir peur de réussir. Parce que oui, on parle souvent de la peur d'échouer, mais on parle très rarement de la peur de réussir. Et la peur du succès, ça m'amène sur l'idée de l'auto-sabotage. On a tous déjà entendu parler de l'auto-sabotage. Hein? Tu t'auto-sabotes, se saboter. On parle de procrastination, d'actes manqués. Hein? Ah, j'ai pas mis l'alarme pour aller à mon entrevue de job, puis je fais jamais ça, je sais pas ce qui s'est passé. Exemple. Mais qu'est-ce qui nous fait peur d'en réussir? Parce que réussir, c'est monter haut. Et ça vient avec un niveau de performance, de responsabilité peut-être même, qui peut faire peur. Réussir aussi, c'est se mettre en position où les gens peuvent réagir, pas toujours positivement à notre succès. Quand on y pense. Mais est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut vivre sa vie sans jamais rien échouer? Peut-être qu'une des plus grandes réussites, dans le fond, c'est d'être capable de vivre l'échec. Dans le fond, la résilience, la capacité de rebondir, c'est peut-être ça la grande réussite.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fière. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste,
I'm alive.
La très, très, très populaire télésérie District 31, qui est clairement mesurablement et objectivement un succès, quand on regarde les codes d'écoute et les éloges que cette émission-là reçoit depuis quelques saisons maintenant déjà, depuis qu'elle est à l'antenne. Notre invitée aujourd'hui y interprète Amélie Bérubé depuis la dernière saison et elle en est la révélation, mais aussi elle est montée rapidement à un des rôles les plus appréciés. Par contre, le succès qu'on voit à l'écran n'est pas garant de tout le processus qui y a mené et elle est là pour nous parler des notions de succès et d'échecs dans sa vie. Charlotte Legault.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci, toi?
Merci, oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui à l'émission.
Bien, merci de m'avoir invitée.
Ça me fait super plaisir parce que, comme tout le monde, je t'ai écouté, tout le monde en parle, et tu as abordé des choses qui m'ont accroché. Okay. En préparant cette émission-là, j'ai fait « Oh my God, mais il faut qu'on regarde ensemble, justement, c'est quoi réussir? C'est quoi échouer? Et c'est quoi, pour toi, réussir sa vie? »
Ben, en fait, je pourrais même pas encore répondre à la question, mais j'ai eu, à un moment donné, j'ai passé par un processus de réflexion parce que après 470 auditions, à un moment donné, on commence à les compter.
Oui.
OK, c'est quoi le ratio? Qu'est-ce le nombre d'auditions qu'on fait versus le nombre de contrats? Et puis, à un moment donné, je pensais vraiment que oui, effectivement, c'était la fin de ma carrière avant que District 31 m'appelle. Et bon, c'est sûr que j'avais l'objectif d'avoir une carrière internationale. Je voulais devenir une des plus grandes tragédiennes de cette planète, de ce siècle. Bon, ça, c'est très gros. Mais avant tout, à 4 ans, je voulais devenir actrice. Et j'ai réalisé que, ben, j'ai réussi. Je l'étais.
Mm-hmm.
Comparativement à d'autres jeunes qui rêvent de ça et ils n'ont même pas la chance de soit suivre un cours, soit faire une audition, même faire une expérience de tournage. Et moi, j'en avais eu plusieurs, beaucoup d'auditions, plusieurs tournages, mais je me suis dit, ben OK, même si ça s'arrête là, je l'ai quand même réussi.
Parce que c'est vraiment super intéressant ce que tu dis, parce que justement, on t'a vu dans Annie et ses hommes.
Oui.
On t'a vu dans Les parents.
Oui.
Tu chantes magnifiquement, tu parles des
Merci.
Accents. Moi, je t'ai applaudi, là, chez nous, je capotais comment je te trouvais talentueuse.
Merci.
À quelque part, tu réussis très bien dans tout ce que tu souhaitais faire.
Oui.
Donc, réussite et succès, est-ce que c'est différent, finalement? Réussir à faire quelque chose, mais avoir du succès, c'est...
Bien, le succès, c'est dur à définir. C'est pour plusieurs personnes, chaque personne va avoir une définition différente. Mm-hmm. Le succès, ça peut être gagner des millions de dollars, être très riche et célèbre... Je veux dire, il y a 200 000 personnes qui attendent d'avoir une signature. Ça, c'est une définition de succès. Pour moi, je pense que succès maintenant, avec les dernières années, puis avec tout ce qui s'est passé avec District 31 aussi, comment le rôle a évolué, je dirais que pour moi, le succès, c'est de pouvoir s'épanouir en tant que... Ben là, dans mon métier, c'est en tant qu'actrice, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Alors, je pense que si on a la chance de s'épanouir, de s'accomplir avec quelque chose qu'on aime, dans le plaisir... Je pense que pour moi, ça pourrait être vraiment ma définition de succès.
Mm-hmm.
Je reste moi-même, j'évolue, j'apprends, je fais du mieux que je peux, puis j'avance avec ça.
C'est super intéressant ce que tu dis, parce que justement, on oublie des fois le processus.
Oui.
Est-ce que le succès est toujours mesurable?
Non. Je pense que aussi on oublie que c'est pas parce qu'on a pas le même succès palpable que d'autres qui nécessairement n'ont pas le succès.
Mm-hmm.
Il y avait, j'en avais parlé à un moment donné dans une entrevue, puis il y avait un coureur de la F1. C'est sa première année à 25 ans. Il est rentré. Et puis on lui a demandé la question, ah ouais, mais comment tu te sens par rapport à l'autre qui vient de rentrer puis il a 18 ans? T'sais, ça a été quand même plus vite pour lui que pour toi. Il dit, ouais, OK, mais et so what, je suis quand même là. Puis c'est vrai, je veux dire, il y a quand même l'opportunité de participer à la F1. Fait que c'est la même chose. En fait, moi, ça m'a pris du temps, mais je suis quand même venue à où est-ce que je voulais me rendre. Fait que ça veut pas dire non plus que ce que l'autre a nécessairement qui est bon pour moi.
Mais là, ça sous-tend ce que tu dis, ça sous-tend les notions de comparaison.
Oui.
Puis j'en parle souvent à l'émission, à quel point c'est la base de la définition de soi. On s'en sort pas. Je veux dire, on finit par se dire, ah ben là, moi, je cours vite ou je cours pas vite à comparer de l'un ou à comparer de l'autre. Comment tu vis, toi, les standards de la société actuelle, justement parce que il y en a de la pression pour réussir aujourd'hui, je vais le dire, je vais le nommer.
Il y en a.
Trouves-tu?
Oui.
Comment ça se place dans ta vie, ça?
J'ai dû me défaire parce que je suis pas un standard en soi. Mon parcours est pas un standard en soi. Les personnes que je rencontre dans ma vie, que ça soit autant personnel que professionnel, ne sont pas des standards. Donc, je dirais que j'ai pas eu le choix de me défaire des standards pour pouvoir avancer. Donc, autant...
Parce que tu te retrouvais pas, il y avait pas de...
Ben non, puis à un moment donné, c'est comme... Je peux pas regarder ce que l'autre fait non plus, parce qu'à un moment donné, c'est comme... Tu revires complètement crackpot, parce que tu dis toujours pourquoi moi je l'ai pas? Pourquoi moi je l'ai pas?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mais t'as quelque chose d'autre que les autres ont pas.
Puis il y a de l'envie qui embarque là-dedans, puis on perd un peu de vue le but, finalement.
Oui, puis c'est comme l'énergie est mal canalisée. Mm-hmm. Fait qu'il faut vraiment comme juste garder le focus, puis se recentrer, puis recanaliser l'envie. Puis c'est parce qu'à un moment donné, on devient amer aussi.
Mm-hmm.
On a choisi ça parce qu'on aimait ça,
mm-hmm.
parce que ça nous faisait du bien. Fait que là, il faut juste retrouver ça, puis oublier ce qui est à côté. Puis déjà, en faisant ça, ça aide.
Ça aide déjà beaucoup à faire
beaucoup.
Ce qu'on fait dans l'amour et dans la passion.
Mais je pense que s'il n'y a pas d'amour, ça ne vaut pas la peine.
Tu penses?
Moi, je pense que oui. Je sais parce que je suis tombée une deuxième fois en amour avec ce métier-là la dernière année. Peut-être le fait aussi que j'étais devenue très dramatique. Là, je pensais vraiment que c'était la fin puis que ça allait être mon dernier rôle. Puis il fallait que je marque l'histoire, il fallait que ça soit monumental, mais
mm-hmm.
oui.
Oui, parce que tu l'as nommé, tu n'avais pas des petits buts quand même. Tu étais une personne très, très ambitieuse. Donc à ce moment-là, les notions de succès... et d'échecs, disons-le comme ça,
oui,
parce
oui.
qu'on va prendre quelques minutes et on va parler d'échecs également au retour, mais ça veut dire que c'est des grands pas et des grandes possibilités. On va en parler. On revient. Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L sur le Canal M. On parle toujours de succès et d'échecs aujourd'hui avec notre invitée, Charlotte Legault.
Yeah.
On est toujours avec Charlotte Legault, une personne ambitieuse dans un métier qui n'est pas facile. On va se le dire comme ça.
Mais ce n'est pas le seul métier qui n'est pas facile.
Effectivement. Mais c'est comme c'est tellement cliché. C'est tellement cliché. Puis en même temps, quand on a des grandes ambitions comme ça, je l'ai nommé, la marche peut aussi être grande de l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire quand ça ne fonctionne pas. Est-ce que, pour toi, l'échec existe ou comme l'erreur, c'est une expérience et un apprentissage? Ou quand on dit ça, l'erreur est expérience, on fait juste se consoler, puis c'est un peu une phrase qui veut rien dire.
Avec les années, je dirais que oui, les erreurs, c'est de l'expérience, puis oui, ça aide au niveau de la maturité, puis d'évoluer. Mais merde, quand ça arrive, là, non!
C'est pas le temps, disons, de sortir ces grandes phrases philosophiques à quelqu'un qui vient de frapper un mur, on va se le dire.
Parce qu'à un moment donné, on veut des résultats, puis on veut que ça soit palpable. Puis ce qui était dur dans ce métier-là, c'est que c'est pas comme en sport où est-ce que tu travailles fort, tu vois un résultat, tu le sens, ton mouvement est plus affiné, ou tu tomberas plus parce que tu l'as répété, pratiqué.
Ou t'as un trophée, oui, ou t'as un minuteur qui calcule ton temps de course.
Puis t'as battu un record. Mais là-dedans, je vais faire des auditions pendant des années, il y a des gens qui font leur cours, puis malheureusement, je sais pas pour quelle raison, ils ont beau avoir tous les talents, puis ils percent même pas. Pourquoi, je sais pas. Mais où est-ce qu'on était, donc?
On parle d'échec et de savoir si c'est vraiment une expérience si on se console en se disant ça.
Donc, c'est sûr que, oui, quand ça arrive, on se dit, ben pourquoi? Mais après, c'est sûr qu'avec les années, ben oui, je dirais que peut-être ça a valu la peine, en fait, que je passe par là.
Et comment on le vit, ces échecs-là? Comment on absorbe l'échec en tant qu'individu, en tant qu'humain, dans ce qui nous tient à cœur? Parce que je vais le nommer, ça, ce que tu dis depuis le début, c'est faire des choses avec amour, avec passion, qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous. Et j'abonde dans ton sens dans ce cas-là, mais à ce moment-là, ça veut dire que quand on réussit pas comme on voulait, l'échec, elle est vécue profondément.
Oui, c'est exactement ce que je m'en ai dit. Oui. On a l'impression que c'est comme, c'est honteux. Puis le fait aussi, c'est juste une question de perception, c'est la façon qu'on se perçoit après les autres, aussi la façon qu'ils nous perçoivent. Mon Dieu, as-tu pensé à un plan B? Puis tu fais comme, ben non. Pourquoi je penserais à un plan B? Je dis, j'ai toujours voulu faire ça. Je travaille bien. Je mets tous mes efforts dans le même panier. Puis là, à un moment donné, on commence à douter. Ah, puis là, quand le doute part, ben là, c'est... Oh boy, c'est fini. Mais je pense que l'échec, en fait, c'est vraiment... Et comme le succès, c'est une perception.
Et tu dis aussi que tu me disais tout à l'heure que ça se sent dans ton énergie quand tu vis des échecs. C'est comme si tu l'avais décrit dans le front.
Ah oui, total. Il y a comme une grosse étampe, puis c'est écrit en gros caractère gras, là, comme 48 ou 72. Là. C'est comme échec. Mm. Mais on le sent, on le vit, là, c'est comme... Puis en même temps, il faut...
T'as déjà été dans cet état-là,
souvent. Je veux dire, au début, c'est comment, non, mais regarde, c'est pas grave, j'ai eu un nom, on continue, là, j'ai fait une vingtaine d'auditions, c'est pas grave, comme, mais à un moment donné, la belle phrase que, regarde, tu vas apprendre, puis un jour, ça va être ton tour. Non. Non.
On n'y croit plus, on perd.
Non, on perd ça. C'est ça. Je pense qu'il faut juste, comme, revenir à focusser pourquoi qu'on a décidé de faire ça. Mm-hmm. Ça arrive toujours à la même réponse, comme je l'ai faite parce que j'aimais ça, puis je l'ai faite parce que quand je le fais, je me sens chez nous, je me sens bien. Je le fais parce que moi, j'ai réalisé en fait que c'était pas juste ma vie, c'est même pas ma vie ou mon obsession ou mon rêve, c'est même plus ça, c'est juste qui je suis. C'est pas même je veux le faire, j'ai juste besoin de le faire.
Il y a comme pas d'option d'épanouissement autre. C'est difficile d'avoir à se réinventer quand t'es dans ton essence même.
T'sais. Mais en même temps, quand je me réinvente, c'est juste dans là-dedans. Mm-hmm. Puis je prends plaisir à le faire, puis j'ai pas... Puis en même temps, je me dis, bon, mais peut-être aussi, il fallait que je passe par là, parce que si je n'avais pas passé par là, ben j'aurais pas travaillé autant, puis là, j'aurais pas trouvé ma niche non plus.
Mais quand j'entends ton parcours, j'ai l'impression, et tu me diras si je me trompe, que tu n'avais pas tant peur de l'échec, parce qu'on parle souvent de la peur de l'échec, mais je veux dire, faut accepter des noms pour y aller.
Ben, moi, je viens du domaine du sport. Je faisais de la compétition artistique au niveau national. Fait que c'est sûr que comme quand moi, j'ai commencé les compétitions, j'étais pas au courant, je comprenais pas le concept de gagner et tout. quand je l'ai compris, par contre, watch out. Mais, mais ça a pris 3 ans avant que je gagne. Donc, j'étais vraiment la dernière, puis c'est pas une joke, j'étais vraiment la dernière au Québec. Puis 3 ans plus tard, à force de travailler puis de bûcher, ben j'ai gagné. Donc, ce que j'ai appris aussi en gym, c'est vraiment ça, c'est tu tombes, tu recommences, tu tombes, tu recommences. Mais après, c'est que c'est pas juste tu tombes, tu recommences, c'est OK, là j'ai tombé, pourquoi j'ai tombé? C'est comme tu te poses déjà la question. Parce qu'à un moment donné, à force de tomber, t'as mal, t'as pas le goût de te refaire mal.
Mais justement, c'est logique. À ces moments-là, est-ce que tu as l'impression que tu as un auto-saboteur en toi qui a pu intervenir à quelque part à un moment donné pour te donner des raisons de recevoir des noms autres que ta personne? Parce qu'on fait ça, les humains. On a une façon de, des fois, de s'amener à des endroits puis de juste se saboter pour éviter un échec ou une réussite pour X, Y, Z raisons à un moment donné. Là. En as-tu un, toi? Y a-tu un nom, ton auto-saboteur?
Moi, j'ai pas de nom, mais j'avoue que j'ai une tendance un peu à m'auto-flageller. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai pu encaisser autant de noms. Et puis, que, tu sais, je me disais, ah, oh, ben, c'est parce que j'ai vraiment cru à un moment donné comme, ah, oh, c'est parce que j'étais vraiment pas assez bonne, quand ça n'a rien à voir. Mais.
De te dénigrer.
Ah, oh, total. Peut-être aussi le fait que je voyais qu'il n'y avait pas de résultat, tout ça, je me disais, ah. Faut que je travaille encore plus fort.
Ce que j'entends, c'est que il y a beaucoup d'aspects de résultats, puis être ambitieuse, c'est le fun, puis c'est motivant. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'à travers tes noms, t'as comme tricoté au travers des valeurs importantes qui est d'être qui tu es et de faire ce que tu aimes constamment.
Oui.
Qu'est-ce qui te reste à réussir?
Hmm.
C'est quoi la prochaine étape, le prochain sourire?
Être plus patiente.
Ah! Un travail sur soi.
Oui, je dirais que ça serait ma prochaine réussite. Mais ça, j'en ai pour toute une vie, mais je dirais que oui.
Je vais te souhaiter d'avoir des bonnes références mesurables pour ta patience et je vais te souhaiter de prendre soin de toi et tout le succès du monde, ma chère Charlotte.
C'est
merci infiniment
fine.
D'être venue.
Merci à toi.
Merci.
Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Les dégâts, les excès, ils vont vous les faire payer. Les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous, on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimpronel et Nicolas, vous nous endormez comme ça. Le marchand de sable est passé, nous, on garde un œil éveillé. Oh, la peur, oh, le vide, oh, la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille, toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse, sinon on tourne la vis. Nous, on n'a rien à gagner, mais on ne peut plus perdre, puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti. Tout est faux, oh mon ami, oh mon frère, tout sonneur perdu pour la guerre. Tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux des papiers. Si tu l'as vu, mon palais, oh, t'auras rien. C'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants, le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité. Enfin, il y a tout ce que vous aimez, vous et moi, on le sait. Le spectacle est terminé, pourtant c'était presque qu'il
idéal, c'était loin du féodal. Oh, maintenant, c'est foutu, ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Faut pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal, Dieu n'est pas dans la bataille. Oh messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous les ris, sous la peau, sous les ongles et dans les taux, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. Des gagnants ni des perdants.
Comment mieux gérer les notions d'échec et de réussite dans nos vies? On s'en doute. Travailler sur soi. Et commencer par c'est quoi réussir pour moi? Quand je vais mourir, on va là, là. Quand je vais mourir, qu'est-ce que je veux pouvoir me dire qui fera que je vais partir avec le sourire? Parce que si on ne sait même pas ce qu'on essaie de faire, ça va être assez dur de pouvoir évaluer si on le réussit ou si on est à côté de la traque. Se demander c'est quoi pour moi réussir ma vie, c'est déjà pouvoir savoir si on réussit. Et surtout, ça permet de savoir si on est en train de réussir dans des choses qui sont réellement importantes pour nous, qui nous tiennent à cœur, ou si on est en train d'investir corps et âme à la sueur de notre front pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Pour qui on veut réussir? Justement, si on se met à regarder ce dans quoi on a actuellement beaucoup de succès, on peut se le demander, ce succès-là, il est pour qui? Parce qu'au-delà de mieux cerner ce qui est important de réussir pour nous, regarder ce qui est déjà une réussite et vérifier si c'est la nôtre ou si c'est celle de quelqu'un d'autre, ça peut nous aider à mieux rediriger nos efforts. Mais surtout, si on se rend compte qu'on est en train de réussir quelque chose qui n'est même pas pour nous, on peut changer. Tout de suite, là, ici, maintenant, à cette seconde-là. Se demander ce qui est important de réussir pour nous, savoir pour qui on réussit, ce qu'on est en train de réussir, ça, c'est une chose. Mais commencer à regarder notre attitude et notre relation avec le succès en général aussi, le nôtre, mais aussi celui des autres. Et prendre le succès des autres comme exemple plutôt qu'une menace, c'est déjà un bon départ. La réussite, c'est comme l'amour, c'est comme le bonheur, c'est une ressource qui ne se divise pas. Ça se multiplie, ça se partage et il y en a pour tout le monde. Je répète, il y en a pour tout le monde. Quand on permet aux autres d'avoir du succès, on s'aide nous-mêmes à avoir une attitude positive envers le succès, envers la réussite en général. Et je parle souvent du monde d'énergie dans lequel on vit. Hein. On devine rapidement ce qu'on crée pour nous-mêmes à ce moment-là, de l'énergie positive autour du succès et donc beaucoup plus de chances d'en avoir nous-mêmes. J'avais parlé de ça quand on abordait la beauté physique. À quel point c'est pas possible d'attirer la beauté dans notre vie ni de la dégager si on est toujours en compétition avec elle. Mais c'est la même chose. La vie, c'est pas une compétition. Et quand je dis qu'il y en a pour tout le monde, je le pense. Moi, j'ai toujours dit que chacun avait sa place et tout le monde a une place. Si c'est pour être nôtre, ce le sera. Et faire son chemin en trouvant beau les gens beaux, en regardant les gens heureux, en ressentant nous-mêmes du bonheur pour eux, en réussissant à voir le succès des autres comme notre propre succès, ça permet déjà de se réconcilier avec beaucoup de choses. Et s'entourer de gens qui ont du succès et qui aiment nous voir avoir du succès également. Et non, je ne parle pas seulement
des succès mesurables, d'argent, de gloire infinie, malgré que ça pourrait très bien être ça, si c'est ça pour nous, avoir du succès, et si ça correspond aux réussites qu'on se souhaite. Parce qu'il n'y a pas de succès ou de réussite sale, valable ou non. Seulement une réussite intègre et authentique qui corresponde à nos buts et à nos valeurs. Donc oui, au-delà de voir le succès des autres comme un exemple, et de choisir une attitude d'inspiration plutôt que de compétition et de jalousie, comme j'en ai déjà parlé en début d'émission, on peut même commencer à s'entourer de gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent, que ce soit n'importe quoi, là. S'entourer des gens qui croient en eux, font ce qu'ils font avec plaisir, investissement et bonheur, tout en réalisant ce qu'ils veulent réaliser, ça nous permet d'évoluer dans un espace où non seulement le succès est le bienvenu, parce qu'on se rappelle que des fois, on évite d'avoir du succès pour éviter les critiques qui viennent avec. Il n'y a pas que nous qui peuvent être critiques hein, face aux gens qui ont du succès. Ça implique que si on fait partie de ceux qui réussissent, on fait aussi partie de ceux qui peuvent se faire critiquer pour le simple fait de réussir. Donc, en s'entourant des gens qui réussissent, mais aussi de gens qui sont contents qu'on réussisse, ça nous met dans tout le contexte nécessaire pour avancer paisiblement, avec confiance, motivation, dans ce qu'on veut faire et réussir. Et ça, c'est très important. En fait, ça peut nous aider à ne pas avoir peur de réussir. Et justement, se poser la question, est-ce que j'ai peur de l'échec ou j'ai peur de réussir? Donc, investiguer nos peurs relatives à échouer, même réussir, parce que même si on en parle moins, ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi épeurant pour autant. Ça permet aussi d'au moins se comprendre que de se poser la question, toujours avec bienveillance, et de transcender ces peurs-là. Et comme tout part de nous, si on a peur de se faire critiquer en réussissant, commencer à voir nous qui, nous, on critique pour avoir du succès. Quel succès on considère immoral, non valable? Et comme la peur de réussir, ça sous-tend plus souvent qu'autrement la peur de perdre ce qu'on a réussi à atteindre. Parce que quand on arrive en haut d'une montagne, tout ce qui reste à faire, c'est redescendre. Peut-être que se rappeler que la seule façon de ne pas avoir à faire face à cette possibilité-là de redescendre, c'est de ne jamais monter cette montagne-là. La seule façon de ne jamais avoir à risquer quoi que ce soit, c'est de jamais rien faire. Et avoir peur de réussir, par peur de perdre ce qu'on a réalisé, quand on y pense, là, c'est préférer rester avec ce qu'on n'a pas plutôt que de prendre le risque de perdre ce qu'on pourrait gagner. Dans le fond, quand on a peur de réussir, c'est qu'on a peur d'être exactement où on se trouve maintenant. Je vais le répéter. Donc, quand on a peur de réussir, c'est qu'on a peur de se retrouver exactement où on se trouve maintenant. Donc, celui qui ne veut pas monter la montagne par peur d'avoir à la redescendre, il préfère rester en bas parce qu'il a peur de retourner en bas. C'est ça, littéralement. C'est assez ironique quand même. Et c'est peut-être là qu'au lieu de mesurer les résultats de nos victoires, il serait intéressant de commencer à regarder le processus parce que qui sait ce qu'on va réellement gagner en décidant de la monter, la montagne? Pas juste au sommet, là, tu sais. Tout le long en montant. Et quand on comprend qu'on ne veut pas réussir par peur de se retrouver exactement où on se trouve déjà, ici et maintenant, on peut maintenant regarder notre gentil et serviable auto-saboteur intérieur. Je dis gentil et serviable parce que j'en ai déjà parlé souvent, tu sais, tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on pense que ça va nous faire nous sentir bien. Tout ce qu'on fait, on le fait pour notre plus grand bien-être. Et donc, quand une part de nous ne veut pas réussir et que ça mène nécessairement à l'auto-sabotage, bien, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui clairement considère la réussite de cette chose-là comme néfaste. Et on vient d'aborder des risques de réussir comme perdre ce qu'on a accompli ou encore se faire critiquer pour notre nouveau statut de victorieux, si je peux m'exprimer ainsi, et mille autres possibilités que je n'ai pas nommées, là. Donc, comprendre ce qui nous sert, ce qui nous mène au bien-être dans l'auto-sabotage, c'est au moins se réconcilier avec cette partie-là et ne pas partir en guerre contre nous-mêmes. Parce que je l'ai déjà dit et je le répète, je ne vois aucune situation dans la vie où partir en guerre contre soi-même peut être bénéfique en quoi que ce soit. Cette partie-là de nous, elle a sa raison d'être, elle est légitime. Elle part de quelque part et elle s'explique, elle se comprend, elle s'accepte et surtout, elle peut se transformer. S'auto-saboter, ça implique nécessairement qu'une partie de nous souhaite accomplir quelque chose et qu'une autre partie veut pas. Donc, elle met des stops, des détours, des raisons pour pas le faire et là, j'en passe. Donc, comprendre pourquoi on veut pas réussir, de quoi on veut se protéger et comment on le fait. Tant qu'on ne comprend pas la partie qui s'auto-sabote, on ne peut pas relier les parties de nous ensemble. Comment on peut être le médiateur impartial et juste de deux parties qui pensent différemment si on ne comprend rien d'une des deux parties en cause, t'sais? Relier les deux parties ensemble, celle qui veut réussir et celle qui ne veut pas. Comment elles peuvent se tenir la main? Si je donne un exemple très personnel qui m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie, c'est pour aller chanter. Il y a cette partie de moi qui se sent vivante, qui se sent... accomplie et qui remplit sa mission de vie quand elle respire et qu'elle chante, parce que c'est la même chose pour moi. Et l'autre qui a peur, hein, qui fait de l'anxiété de performance, qui a peur de fausser, qui a peur du jugement des autres, qui a peur de ne pas être à la hauteur. Et un jour, pour relier les deux, j'ai littéralement proposé avant un spectacle à la partie qui avait peur, ça fait 2 ans de ça, ça fait quand même longtemps, mais quand même, de rester à la maison. J'ai dit à la fille forte qui adore chanter puis qui veut y aller qu'elle allait se débrouiller tout seule et l'autre, elle peut rester à la maison. Mais j'ai aussi dit à la fille sensible que c'était elle qui était vulnérable puis que c'est elle qui apportait toute l'émotion. Elle est venue et elle a compris que finalement, en restant à la maison, ben, elle aurait évité ce dont elle avait peur, c'est-à-dire de ne pas pouvoir chanter. Et...
I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through.
And I need to go home.
C'est déjà presque tout pour cette semaine. Je remercie Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la régie, toujours gentil et tellement fin. Jean-Seb, j'adore travailler avec toi, sincèrement. Et je remercie également Charlotte Legault d'être venue nous voir en studio et de nous avoir partagé les notions de succès et d'échec, ce que ça veut dire pour elle avec beaucoup de simplicité. Je pense que de réussir à vivre sa vie sans penser à réussir ni à échouer, c'est la plus grande des réussites. Avoir des projets, ça nourrit l'esprit. Mais comme je l'ai déjà dit, qui nous sommes et ce que nous faisons sont deux choses différentes. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Je répète, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. En fait, pour moi, peu importe ce qu'on fait dans l'action, la façon dont on fait les choses, avec cœur, passion, avec joie, avec authenticité et intégrité, en ayant du plaisir, en s'épanouissant dans ce qu'on fait, peu importe ce que c'est, peu importe le résultat, ça reste la plus grande des réussites. Bonne semaine.